midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver et le plaisir de retrouver quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps. Isabelle Figueza, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Voilà, on comptait les années depuis lesquelles je ne vous ai pas vu, ça fait 12 ans que vous n'êtes pas venu. Vous êtes conférencière et psychothérapeute, spécialiste des émotions. Vous êtes une enfant de la balle car votre père était un pionnier de la psychologie humaniste dans les années 80. Et c'est lui qui vous a ouvert aux émotions et à l'éducation non violente.
Oui, tout à fait. Il a introduit en France l'analyse transactionnelle. Il a introduit la dimension de la psychosomatique, la visualisation de la maladie. Donc toute cette dimension psychosomatique qui aujourd'hui est monnaie courante, mais qui à l'époque, c'était très très nouveau. Il a même introduit le PRODAS, le programme de développement des intelligences affectives et sociales, qui est un des programmes recommandés aujourd'hui par le gouvernement. Donc oui, c'était un précurseur.
Et c'était il y a 40 ans ça.
Hein. Exactement, c'était il y a 40 ans.
Vous êtes celle qui a vulgarisé et diffusé les principes de la parentalité positive en France, et certains vous surnomment même la papesse de l'éducation positive en France. Ça vous va ou pas, la papesse ?
Mais je laisse les gens dire ce qu'ils veulent. En fait, quand dans leur langage, souvent, c'est un peu ironique. Hein, mais bon, finalement, ce que ça m'a permis de mesurer, c'est l'impact. Hein. Parce qu'une papesse, c'est quelqu'un qui déjà a une certaine sagesse, qu'on respecte, qu'on écoute, et qui a un impact sur la société. Et bon, ben voilà, ça m'a un petit peu impressionnée au début, et puis finalement, j'accepte de reconnaître cet impact sur la société. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça fait des années que je travaille là-dessus. Donc c'est pas tellement moi en tant que personne, mais c'est surtout que ces idées-là de la parentalité positive pénètrent vraiment dans la société.
Elles sont diffusées dans la société.
Et oui, vraiment. Et maintenant, enfin, il y a 40 ans, les émotions, c'était scandaleux, quoi. On n'osait pas montrer ses émotions, on n'imaginait même pas qu'il fallait écouter les émotions, c'était quelque chose qu'il fallait cacher, dissimuler. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a pléthore de livres sur les émotions et on se pose la question de comment faire. Et donc, je pense que pour la parentalité, c'est beaucoup comme ça aussi. De plus en plus de gens ont envie d'aimer leurs enfants, d'avoir une relation apaisée, harmonieuse avec leurs enfants. Et la question, c'est comment faire ? Alors évidemment, il y a quelques personnes qui agitent des épouvantails en disant « Attention, si vous faites cette parentalité positive, il va se passer toutes sortes de choses, vos enfants vont devenir des enfants rois, ils vont exagérer, ils vont devoir avoir des comportements débordants, etc. » Et non, la réalité, c'est que c'est pas ça du tout.
Et oui, vous êtes en train de dire l'éducation positive en France attaquée depuis 2 ans. Alors, on ne sait pas pourquoi depuis 2 ans, mais subitement, ils sont sortis, alors notamment avec Caroline Goldman, hein, qui a trouvé des échos un petit peu partout et des relais dans la presse. Et vous, pour répondre un petit peu à toutes les reproches qu'on fait à la parentalité positive, vous publiez « Éduquer, tout ce qu'il faut savoir » chez Robert Laffont, sous-titré « Ni laxisme, ni violence, les clés de l'éducation positive ». Un livre où vous mettez les points sur les « i ». Vous expliquez que vous avez été victime de beaucoup de désinformation. Par exemple, qu'est-ce qui n'est pas vrai qu'on dit sur vous ?
Ah, sur moi, personnellement ?
Oui.
Alors, les petits détails où on dit des choses qui ne sont pas vraies. Alors, déjà, on a dit que je n'avais jamais reçu de clientèle. Ça, c'est profondément faux. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de gens et j'avais un cabinet pendant plusieurs années.
Vous avez accompagné combien de parents, à peu près, vous savez ?
Ah, de parents, je ne sais pas, parce qu'en fait, ça dépasse la possibilité de calculer. C'est surtout les clients en psychothérapie qu'ils disent que je n'ai pas eu. Ce n'est pas forcément parce que je me suis intéressée plus tardivement à la parentalité. Et je pense que directement, j'ai dû j'en sais rien, j'ai pas calculé, mais plusieurs centaines, je pense. Et c'est pas ça, en fait, c'est surtout ce dénigrement sur le fait que je ferais beaucoup d'argent. J'ai écrit 50 livres, je travaille, et ces livres, ils sont souvent en poche, et du coup, je gagne pas énormément sur chaque livre. Et c'est sur 50 ans aussi,
fait
50 ans que je travaille.
On vous accuse d'avoir du succès, c'est ça,
mais on m'a même accusé, Philippe, d'avoir refusé la chimiothérapie pour mon mari. C'est-à-dire que ces gens ont été chercher des trucs qu'ils inventent d'ailleurs, parce que vous avez lu mon livre sur
le deuil. Je vous le disais, c'est un livre vraiment bon voilà, bouleversant.
Et dans ce livre, j'explique très clairement que on a tout de suite pris la chimio et que on a convaincu mon mari, qui lui était pas très chaud pour, ouais, on l'a convaincu de faire la chimio. Donc c'est profondément faux, c'est écrit dans mon livre, c'est même pas quelque chose que j'invente aujourd'hui, c'est déjà écrit. Mais ils ont été chercher des choses, en fait, il y a eu tout un espèce de dénigrement. Quand on ne peut pas vraiment attaquer les idées, on attaque les personnes pour pouvoir dévaloriser leurs idées. Mais donc, c'est pour ça. Ça a été tenté, et vous avez raison, c'est plus sur moi que ça a été, que les accusations ont porté dans un premier temps, plutôt que sur les idées, parce que les idées, elles sont difficilement attaquables.
Alors, c'était en quelle année ? En 2011, vous avez défini une définition de ce que c'est que la parentalité positive.
Mais c'est pas moi qui ai vraiment défini cette parentalité.
C'est un groupe.
Alors oui, alors on a fait effectivement, en fait on s'est dit à ce moment-là, à cette époque, que ce serait utile, on était très peu, la psychanalyse dominait complètement le champ de la psychologie à cette époque-là, et on était un petit noyau de personnes qui cherchaient à sortir la France de cet obscurantisme et à dire, voilà, on propose autre chose, et si on est ensemble, eh bien peut-être ça va marcher un petit peu mieux, plus facilement. Et donc, on s'est reliés pour pouvoir vraiment asseoir ce qu'est la parentalité positive. Mais positive parenting, la parentalité positive, en fait, le parentage positif, c'est un terme qu'on trouve dans la science aux États-Unis depuis, dans le monde anglo-saxon.
C'est pas nouveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une mode et ça n'a rien de nouveau.
C'est ça. C'est pas une mode, ça n'a rien de nouveau. Et finalement, ce sont des psychanalystes qui l'ont inventé à la base, puisque ce sont des gens qui ont quitté Freud, puisque Freud avait pris une tangente légèrement selon Freud, le trauma n'était rien, et ce qui était problématique, c'est le fantasme de quelqu'un, parce que il a construit cette idée de l'Œdipe, il a effacé l'idée qu'un traumatisme, et notamment un traumatisme sexuel, puisse avoir un quelconque impact sur l'avenir de quelqu'un. Donc aujourd'hui, on sait que Freud avait tort, mais à l'époque, c'était pas ça. Mais il y a quelques détracteurs qui sont partis. Ferenczi, Adler ont quitté Freud.
Donc,
et ont
ce
dit,
sont les
non.
pères fondateurs.
Et ce sont eux qui sont les pères fondateurs de tout ce mouvement-là, plus aux États-Unis. Tout ce travail très scientifique, en fait, les gens ont commencé à se poser des questions et ils ont développé une autre façon de faire la psychologie, complètement sortie de la psychanalyse, et du coup, ça a produit. Voilà. Donc, positive parenting, c'est dans la science, et du coup, ça a inondé un peu toute la culture anglo-saxonne, et le Conseil de l'Europe, en voyant la quantité de violence qu'il y avait dans les pays européens, a dit, donc il a édicté toute une convention en disant vraiment c'est nécessaire de développer, ça ne suffit pas de lutter contre la violence, il faut développer des programmes de parentalité positive. Et donc c'est eux qui ont les premiers introduit ce terme de parentalité positive.
Alors vous le définissez par ce que c'est ou parce que ça n'est pas ?
Alors c'est vrai que souvent ça se définit parce que ça n'est pas, c'est-à-dire ça n'est pas de la violence, c'est ce qui n'est pas violent, mais je le définis davantage par ce que c'est, c'est-à-dire une attention aux besoins de l'enfant et du parent. Et quand on remplit les besoins, ça permet un développement optimal. En fait, la parentalité positive, c'est celle qui va favoriser le développement optimal de l'enfant. C'est pour ça que c'est difficile de s'y opposer finalement.
Alors, vous l'expliquez dans votre livre, c'est pas un catalogue de trucs et astuces positifs pour obtenir que les enfants obéissent.
C'est ça. Parce que quelquefois, c'est un peu comme ça que certains le...
C'est pas un remède miracle, c'est pas...
Voilà. Mes détracteurs ont un petit peu insisté sur cette idée-là, que soi-disant, ce serait comme une méthode ou un ensemble de trucs, et donc ils vont prendre un petit truc de parentalité positive et regarder, ça marche pas dans tel et tel cas. Mais en fait, non, la parentalité positive, c'est une attitude face à l'enfant, et c'est l'attitude qui respecte la Convention internationale des droits de l'enfant. Et la Convention internationale des droits de l'enfant, la France, elle l'a ratifiée. Et ratifiée, ça veut dire que c'est devenu la loi en France. Donc, normalement...
Que personne ne connaît. Alors, vous dites qu'il y a une loi de 2019 que personne ne connaît.
Ça, c'est vrai. On a passé cette loi. On a cette loi qui interdit les violences physiques et psychologiques sur les enfants. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas, dans cette loi, la déclinaison de ce que sont ces violences. Bon, ceci dit, les gens sont pas idiots, puisque dans l'observatoire, l'enquête fantastique qui a été menée par l'observatoire Loveo, l'observatoire de la violence en France, ils ont mesuré, ils ont interrogé les parents, et les parents étaient conscients. Ils ont dit, ils ont été quand même 80%, 79% à dire « oui, j'ai utilisé une violence éducative ordinaire pour faire obéir mon enfant dans la semaine qui s'est écoulée ». Donc ça veut dire quand même que c'est vrai que le gouvernement n'a pas fait de grande communication, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une campagne de communication qui permette aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est qui est violence et qu'est-ce qui n'est pas violence, comme ça a été fait en Suède à l'époque, comme ça a été fait dans tous les pays qui sont passés à une éducation positive, qui sont quand même maintenant une majorité un peu dans le monde, enfin dans le monde, dans le monde anglo-saxon en tout cas, et dans les pays du Nord. Tous les pays du Nord sont dans une parentalité positive, hein. Et c'est pour ça que quand on nous dit ben non, ça fait des enfants rois, ça fait des n'importe quoi, ça fait non, c'est pas vrai.
Il y a quand même des enfants tyrans qui prennent le pouvoir dans la maison.
Ben les Suédois, les Norvégiens, ils sont pas comme ça.
Hein. Et ce à quoi vous répondez, non, c'est un trouble psychiatrique qui doit être pris et traité en tant que tel. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas plus d'enfants tyrans et d'enfants rois avec l'éducation positive.
Même moins, hein, puisque dans toutes les études, on montre que lorsque les parents développent des méthodes d'éducation positive, alors le nombre de comportements débordants et d'agressivité, toutes les gestes agressifs, tout ça, ça diminue notablement. La dépression diminue aussi, les troubles anxieux diminuent, et les enfants ont de meilleurs résultats scolaires et ils s'adaptent mieux à l'école, c'est-à-dire qu'ils sont plus conformes à l'école. C'est ça qui est complètement incroyable. Mais c'est logique, et je le dis dès le début du livre. C'est-à-dire, quand j'étais gamine, moi, mes parents ne me punissaient pas. Donc, je les respectais, je les écoutais, je faisais ce qu'ils me disaient. S'ils me disaient de faire un truc, je me disais, bon, ben, ça veut dire que c'est utile, c'est important.
Mais vous venez d'une époque, Isabelle Filosa, et nous venons d'une époque où les enfants étaient autodisciplinés et où ils craignaient les adultes.
Ils n'étaient pas autodisciplinés, ils craignaient les adultes. C'est différent. Moi, j'étais autodisciplinée parce que je ne craignais pas les adultes.
Non, c'est vous qui le disiez. Mais c'est vrai que on nous disait de nous asseoir et de pas faire de bruit. On s'asseyait, on faisait pas de bruit.
Seulement quand l'adulte était là. Parce que justement, moi, ce qui me fascinait, c'est que à l'école, les enfants étaient assis quand la maîtresse était là. Dès qu'elle sortait faire une photocopie, tout le monde bougeait, sautait sur les tables, lançait des boulettes et compagnie. Et moi, j'étais là stupéfaite. J'ai dit, mais attendez, elle a dit qu'il fallait qu'on reste sage. Pour moi, ça voulait dire on reste assis tranquille, quoi,
c'était
et
juste
silencieux.
La peur de l'adulte.
C'est la peur de l'adulte. Et mon papa m'a dit, Isabelle, c'est normal, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une éducation où s'il y a le chat, alors on se terre, on ne fait rien du tout, mais dès que l'autre n'est pas là, hop, on fait n'importe quoi. Et c'est pour ça que l'éducation positive, elle rend les gens bien plus alors, pas obéissant, parce qu'ils ne sont pas soumis à quelque chose.
Vous n'aimez pas le mot obéissant non plus.
Non. Ouais. Mais partons, obéissant aux règles. C'est-à-dire, moi, j'ai appris à obéir aux règles. Tandis que dans une éducation autoritaire, on apprend à obéir à une personne. Et c'est différent, parce que si la personne n'est pas là, alors on fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une société où les gens font vraiment n'importe quoi dans la vie, quoi.
C'est pour ça que beaucoup de parents s'étonnent quand on leur rapporte le comportement de leurs enfants à l'extérieur, parce qu'à la maison, c'est des petits anges.
Eh oui.
Ben oui. Et ils ne reconnaissent pas leurs enfants. Ils disent, ben non, ça ne peut pas être mon fils ou ça ne peut pas être ma fille. À la maison, ils tiennent au carreau.
Et voilà, au carreau.
Mais au carreau. Enfin,
oui, c'est ça.
En tout cas, ils ne mouffent pas.
Ben oui, mais ça, c'est pas normal. Voilà. Et donc, il vaudrait mieux qu'ils s'expriment un petit peu plus dans la maison, qu'ils apprennent la responsabilité. En fait, la parentalité positive, on nous accuse parfois de pas mettre de limites, etc. Mais les enfants qui sont élevés dans la parentalité positive, ils respectent beaucoup plus les règles et les limites. Beaucoup plus et beaucoup mieux. Et ils le respectent parce qu'il est nécessaire de les respecter. Ils les respectent parce qu'ils comprennent pourquoi il faut les respecter. Et ils ne sont pas dans cette haine, dans ce combat, dans ce conflit systématique avec l'adulte où il faut ne pas respecter pour être valorisé.
Bon, la vérité d'Isabelle Filosa ce matin sur Beurre FM, vous publiez « Éduquer tout ce qu'il faut savoir » chez Robert Laffont. Alors sous-titré « Ni laxisme », on en parlera tout à l'heure, « Ni violence », les clés d'éducation positive jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Isabelle Filioza, notre invitée. Je rappelle que vous publiez, Isabelle. Alors attendez, on va le montrer à la caméra puisque l'émission est filmée, éduquée. Tout ce qu'il faut savoir, c'est chez Robert Laffont. Et là, vous revenez un petit peu sur, voilà, elle est là, la caméra. Vous revenez un petit peu sur tout le débat qui s'agite depuis deux ans, notamment l'éducation positive accusée de laxisme, de violence. Enfin bref, vous rétablissez votre vérité. Alors, vous expliquez, hein, vraiment, mais vous prenez le temps dans ce livre de plus de 300 pages, un petit peu d'expliquer les tenants et les aboutissants de ce que c'est que l'éducation positive.
Mais j'ai été tellement effarée des bêtises qui étaient dites, des exagérations, des simplifications. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer à laisser dire ça. Il faut pas que les gens se mettent à croire ces mensonges, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour moi, et d'argumenter. C'est-à-dire que au début, je me suis dit, moi, je vais un petit livre qui va juste répondre. Mais en fait, répondre, comme beaucoup de choses ont été déconstruites, je pense que comme c'est quand même la tendance un peu générale, l'autoritarisme, et pour un Français, c'est normal de vouloir faire obéir un enfant, de le dominer, et de penser que l'enfant va forcément chercher à faire à sa propre idée, il va forcément déborder, il va forcément chercher à... voilà. Donc, on est dans un regard négatif. Donc, quand quelqu'un vous conforte dans ce regard-là et vous donne une solution simplissime, voilà, tu l'envoies dans ta chambre et c'est fini, eh bien, on se dit, ah ben oui, pourquoi pas. Et le problème, c'est que ce qui est dit sur la parentalité positive, ben, les gens finissent par peut-être y croire parfois et se dire, hein, mais oui, positif, ça veut dire qu'il faudrait être tout le temps le sourire, il faudrait être tout le temps tranquille, tout le temps calme. Donc, ce n'est pas possible, je ne peux pas laisser dire tout ça.
Ne pas brimer ses enfants et dire toujours oui. C'est ça que ça voudrait dire.
Ben voilà, on raconte des choses comme ça et c'est profondément faux, puisque justement, la parentalité positive, c'est zéro tolérance. C'est lorsqu'il y a un comportement débordant, hop, j'interviens tout de suite, je m'interpose pour chercher à comprendre et à aider l'enfant. Et l'idée, c'est non pas de systématiquement punir, parce qu'on sait que ça ne marche pas, la punition, ça marche sur le moment.
Mais comment on sait que ça ne marche pas? Comment on sait?
On le sait, il suffit de voir qu'il faut recommencer. C'est-à-dire que sans arrêt, on doit punir et punir de plus en plus et punir de plus en plus. Et ça, en fait, il faut que vous arriviez à des punitions très fortes pour soumettre l'enfant. Mais après, vous avez un enfant soumis. Vous n'avez pas un enfant qui se développe.
Vous expliquez qu'un enfant qui a été puni, c'est un enfant qui a payé sa dette.
Ben voilà.
Donc, qui estime qu'il a payé sa dette sur la bêtise qu'il a faite et donc qui
sans
peut
problème.
Recommencer. Ouais.
Pourquoi pas?
Ouais.
Tandis qu'un enfant, quand on va, il déborde. Et donc, on se dit, ben, tiens, il y a un souci. Est-ce qu'il y a un souci dans son cœur? Quelque chose avec lequel il se débat et il est sous stress. Et du coup, on joue notre rôle de parent. On va l'aider à réguler son stress, à apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre. Peut-être c'est une compétence qu'il ne connaît pas. Je veux dire, s'il a 3 ans et qu'il veut monter sur la balançoire, il va ou descendre sur le toboggan. Bref, il va mordre un autre gamin.
J'adore parce que c'est l'exemple que vous prenez toujours. L'histoire de la balançoire. Bon, alors comment on explique à un enfant qu'il faut qu'il attende son tour pour monter sur la balançoire?
Eh bien, on ne lui explique pas qu'il faut le faire. C'est le « il faut » qui est embêtant. On lui explique comment le faire. Parce que c'est ça le souci, c'est qu'on ne dit jamais à l'enfant comment faire. Du coup, il n'a pas la compétence. Mmh. Et comme il n'a que 3 ans, il n'a pas encore les capacités inhibitrices qui lui permettent d'attendre. Donc, on va lui dire, là, pour l'instant, c'est le tour de Daphné sur la balançoire. Ton tour, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu peux faire pour attendre ton tour? S'il est assez grand, 4-5 ans, il va réfléchir lui-même. Il va dire, je peux chanter 3 chansons, je peux aller courir, etc., jusqu'à la porte du square et revenir. Bref, il va donner des idées. S'il est tout petit, c'est moi qui vais lui donner des idées, mais je lui donne 3 idées. Et je lui dis, est-ce que tu veux jouer avec moi à autre chose pendant ce temps-là? Est-ce que tu veux courir? Est-ce que tu veux chanter une chanson? Et du coup, ça se passe. On donne une compétence.
Et vous expliquez dans votre livre que finalement, un enfant, ça n'a pas la conception du temps. C'est-à-dire que si vous lui dites balançoire, lui, il va penser balançoire tout de suite.
C'est clair. S'il a 2 ans, en tout cas, c'est ça.
Jusqu'à 3 ans,
c'est ça. Il est dans l'instant. Et du coup, il n'a pas encore cette capacité de se repérer dans l'espace, dans le temps, etc. Et dans 10 minutes est un concept tout à fait abstrait. Tandis que dans 3 chansons, ça c'est clair.
Vous parlez du baromètre des violences éducatives qui a publié une enquête en 2022 et dont dans l'enquête, 70% des parents interrogés pensent qu'il est difficile, voire impossible, d'élever un enfant sans le punir ou lui crier dessus. Donc premier chiffre. Deuxième chiffre, 77% de ces mêmes parents interrogés disent qu'il est inacceptable d'être violent. Alors comment on fait avec ces deux résultats qui sont complètement incompatibles ?
Et voilà. Et c'est là que je me dis qu'il y a une possibilité d'aider les gens, mais ça montre combien nous avons absolument besoin de ce que le Conseil de l'Europe conseillait, des programmes de développement des compétences parentales. Parce que c'est difficile. On a été, nous, élevés dans une dynamique autoritaire. On a été soumis à cette autorité. Et du coup, ben, ce qui nous vient, c'est automatiquement punition. Et on ne sait pas faire autrement. Et on se dit, mais si je ne punis pas, je fais quoi ? On est complètement démunis. Donc, on a besoin d'idées, on a besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin d'informations. Dans les pays nordiques, ils ne sont pas non plus nés avec des compétences parentales. Ils ont des programmes, ils ont des groupes qui leur permettent de s'approprier des concepts. On a besoin de comprendre le développement de l'enfant. Si j'ai écrit tous ces livres qui montrent un peu qu'est-ce qui se passe à tel âge, qu'est-ce qui se passe à tel âge, ça ouvre des horizons aux gens. Parce que, ah bon, un enfant de moins de 3 ans, il n'a pas la capacité de s'empêcher de faire quelque chose s'il le désire. Ah bon ? Et donc, on comprend son enfant. Et du coup, ben, c'est complètement différent. Mais ce décalage entre j'ai pas envie, c'est inacceptable d'infliger une violence, mais on peut pas faire autrement, eh bien voilà, c'est là que les pouvoirs publics ont une responsabilité. Comment faire pour aider les parents à devenir le parent qu'ils ont envie d'être? Parce que tous les parents ont envie de mener une éducation sans violence. Tous les parents ont envie que leurs enfants s'épanouissent. C'est pas possible autrement.
Et quand on déroule l'enquête, alors on voit que les parents sont plutôt violents, hein, puisque la moitié des parents, un peu plus de la moitié des parents, déclarent avoir crié fort sur leur enfant. Donc 55%, et 48% déclarent l'avoir mis au coin ou puni dans sa chambre. Ce que vous appelez, vous, le time out?
Ah non, 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 c'est pas moi qui l'appelle comme ça.
Vous développez, vous prenez l'expression totale.
Oui, et surtout, time out, c'est normalement, c'est un mot qui est réservé, c'est pas du tout une punition. C'est time out of reinforcement, donc c'est un temps en dehors de tout renforcement. Donc là, je vous regarde, je vous souris, et donc on est dans le cadre d'un... Ça n'existe, le time out, que dans le cadre d'un programme général de gratification, de récompense, etc.
Donc, c'est pas le temps dehors, alors?
Non, non. C'est vraiment... on est dans le cadre d'un programme d'apprentissage sur un comportement donné, et là, je vous souris, là, et tout d'un coup, time out, c'est-à-dire, j'arrête de donner ces gratifications. Donc, effectivement, ça donne l'information, donc ça punit, entre guillemets, mais juste ça va avoir comme effet, comme impact, de diminuer l'occurrence du comportement que je veux faire s'éteindre. Mais c'est vraiment une technique très spécifique des thérapies comportementalistes, hein, et ça n'est pas du tout envoyer un enfant dans sa chambre pour la moindre chose.
Alors 46% l'ont privé de quelque chose, 23% ont donné une fessée, 15% une gifle et 18% déclarent avoir traité leur enfant de bon à rien, de méchant ou d'imbécile. Et 20% l'ont bousculé, tiré par le bras ou poussé.
C'est ça, ça fait mal quand même ces statistiques. C'est douloureux d'imaginer à quel point les enfants souffrent, mais aussi les parents. Parce qu'un parent qui commet de telles violences, qui se montre, il n'a pas l'intention d'être violent. Je pense qu'il n'arrive simplement pas à se retenir de faire ça. Et il sait que ce n'est pas bon maintenant. Avant, on ne savait pas. On croyait, c'était ce que nous disaient nos parents, on était dans ce monde-là. Bon, il y a quelques personnes qui continuent à revendiquer, notamment ceux qui s'expriment dans les médias, continuent à revendiquer une certaine
forme d'autorité.
Voilà. Forme d'autorité, mais c'est le contraire. C'est de l'autoritarisme, ça n'est pas de l'autorité. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on se montre autoritaire, on perd de l'autorité. J'ai tout un chapitre dans le bouquin sur l'autorité, parce que la véritable autorité, eh bien, elle est nécessaire, elle est utile, elle est fondamentale. Et en fait, dès que nous punissons un enfant, nous perdons de l'autorité. C'est ça qu'on ne réalise pas. parce que ça montre notre impuissance, en fait. Chaque fois qu'on punit un enfant, ben, on est en train de dire « je ne sais pas comment t'aider ». Et donc, j'y arrive pas. En fait, c'est un aveu d'impuissance de punir. Ça n'est pas efficace sur le long terme. Ce qui est efficace sur le long terme, c'est de doter l'enfant de compétences émotionnelles, sociales, de capacités de résolution de problèmes. C'est l'aider face à la situation qu'il rencontre.
Vous expliquez ce qui se passe quand un enfant, alors, ou soit puni, ou soit frappé, ou insulté. Vous parlez des psychotraumas. Et ces traumas, eh bien, ils réapparaissent à l'âge adulte et ils ont une influence sur le parent qu'on devient.
Oui, on mesure aujourd'hui, on a fait des IRM fonctionnels et grâce à ça, on mesure à quel point le psychotrauma impacte notre cerveau. Et c'est vrai que quand on a des zones entières de notre cerveau qui ont été abîmées, altérées, que nos circuits cérébraux ne nous permettent plus d'être tempérés, d'être tranquilles, d'être calmes. En fait, quand un enfant pleure, par exemple, nous sommes naturellement équipés pour aller vers lui et prendre soin de lui. Sauf si nous avons été traumatisés enfant. Parce que si nous avons subi enfant des coups, des insultes, des cris, etc., et nous avons, en fait, notre amygdale, ce petit noyau qui déclenche le circuit de stress, il a été suractivé. Et comme nous n'avons pas appris à réguler nos émotions, du coup, eh bien, nous ne savons pas réguler l'impulsion. Donc, on éprouve, au moment où l'enfant pleure ou râle ou crise, on va éprouver à l'intérieur de soi une tension, une envie de hurler, de crier, de taper, et on n'a pas les capacités de réguler. Et c'est pour ça que le plus important, c'est de muscler les capacités de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est ce qui nous permet de gérer ses émotions, quoi. Quand on sent ce qui monte à l'intérieur et on est capable de calmer, de tranquilliser. C'est pour ça que quand notre enfant est super en colère ou il vit une crise de stress, notre job, c'est de co-réguler son émotion. C'est-à-dire, on s'approche de l'enfant et on va l'accompagner, lui donner de la sécurité, mettre des mots. Et quand on apporte de la sécurité à un enfant qui est en pleine crise émotionnelle, eh bien, se relie dans son cerveau la zone de stress qui déclenche la crise et la zone préfrontale qui donne la sécurité, qui calme le jeu. Ce qui fait qu'on construit littéralement, Philippe, littéralement, on construit dans le cerveau des réseaux de neurones qui vont permettre d'apprendre à réguler et qui seront disponibles dans le futur quand on sera adulte.
Autre casquette, quand vous avez 24 ans, vous êtes devenue enseignante au Conservatoire National des Arts et Métiers sur cette question de la régulation du stress, notamment dans la prise de parole. Et vous expliquez aux parents que quand nous crions, tempêtons, voire frappons nos enfants, ce sont des réactions de stress. Et c'est pas qu'on est un mauvais parent, c'est finalement du stress.
Oui.
Donc, ce qui voudrait dire que un des premiers apprentissages, c'est d'apprendre à gérer ce stress-là.
Tout à fait.
Et pareil pour l'enfant, finalement.
Tout à fait, pour tout le monde. Et c'est pour ça que apprendre les compétences émotionnelles et sociales et le développement des compétences émotionnelles et sociales. Je suis contente que là, Gabriel Attal ait proposé ça dans l'éducation nationale. C'est absolument nécessaire. C'est la façon de diminuer le harcèlement scolaire.
Il avait un groupe de travail.
J'imagine, mais enfin...
Vous ne faisiez pas partie de ce groupe-là?
Non, je ne faisais pas partie de ce groupe.
Vous avez fait partie des 1000 jours, c'est pour ça.
Oui, j'étais moins vers les plus petits.
Donc vous ne pouvez pas faire partie du groupe d'après, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai qu'ils sont emparés du sujet, ouais.
Oui. Et au niveau scientifique, c'est là qu'on voit le plus fort, les preuves les plus évidentes. Il y a des preuves qui feraient pâlir de jalousie tous les autres scientifiques. Parce que lorsque on développe les capacités émotionnelles et sociales, tout se passe mieux. Il y a au niveau physique, ça va mieux. Au niveau du travail, ça améliore tout dans notre vie. Ça permet de contrebalancer le trauma. C'est-à-dire que même quand on a subi du trauma, eh bien, le fait d'avoir à l'école des compétences émotionnelles et sociales, ça va nous aider à mieux à digérer les choses. Parce qu'en fait, le traumatisme, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi face à ce qui m'arrive. Et donc, si je change ma façon de gérer les choses, eh bien, du coup, ce qui se passe à l'extérieur va m'impacter un peu moins.
Je rappelle, Isabelle Filiosa, que vous publiez « Éduquer tout ce qu'il faut savoir ». Votre éditeur, c'est Robert Laffont, sous-titré « Ni laxisme, ni violence, les clés de l'éducation positive », dont on parle ce matin jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Isabelle Filiosa est notre invitée jusqu'à 13h. Vous expliquez que quand des parents explosent de colère contre leur enfant, ce n'est pas parce que ce dernier s'est mal comporté, mais que la colère était déjà présente en eux depuis longtemps. C'est ça qu'il vous faut comprendre.
Oui, c'est ça. En fait, c'est si nous nous comportons comme nous nous comportons avec nos enfants, si nous débordons souvent, si leur comportement réussit à nous faire disjoncter à ce point...
Ça arrive.
Et oui, mais ça veut dire que nous sommes sous stress. Ça veut dire qu'on a besoin de s'occuper de nous occuper de nous-mêmes, de soigner les blessures de notre propre enfance qui sont peut-être encore à vif. Parce que une étude internationale a montré que près d'une personne sur quatre a subi au moins un traumatisme dans son enfance et une personne sur huit en a subi quatre. Et quand on a subi quatre traumatismes dans son enfance, on risque les addictions, on risque les problèmes cardiaques, on risque le cancer, on risque toutes sortes de maladies physiques et de problèmes émotionnels, sociaux, on risque beaucoup plus des divorces, on risque... En fait, notre vie est vraiment impactée lourdement. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de diminuer le traumatisme, mais de mesurer avec tendresse que si nous débordons avec nos enfants... quand eux débordent, eh bien, ça n'est pas de notre faute. C'est pas parce qu'on est un mauvais parent. C'est simplement parce que nous avons été blessés dans notre enfance, parce que nous avons été blessés dans notre cœur, et que c'est de nous que nous avons besoin de nous préoccuper.
Il y a un formulaire ACE dans votre livre que vous pouvez compléter pour voir où vous en êtes au niveau des traumatismes que vous avez subis dans votre enfance.
Et
vous dites que ça fait quand même une très grande majorité de la population française qui a été impactée.
Oui, tout à fait. Population française, on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas encore fait l'étude en France, mais là où on fait l'étude, les chiffres explosent. Et c'est vraiment extrêmement impressionnant. Personne ne s'attendait à autant. On n'imaginait pas que le traumatisme était si prévalent dans notre société. Mais en fait, en réalité, presque tous, nous avons subi du traumatisme. Parce qu'en fait, le traumatisme, c'est quoi? C'est chaque fois que... Donc, vous avez dit ACE, c'est Adverse Childhood Experience, c'est-à-dire une expérience adverse dans l'enfance. Une expérience adverse, c'est chaque fois qu'on a été rejeté, chaque fois qu'on a été diminué, chaque fois que quelqu'un nous a dominé, qu'on a été contraint, quand on a eu peur, en fait. Donc, une fois avoir peur parce que mon parent disjoncte, c'est pas grave, ça, aucun problème, ça arrive tout le temps. On s'excuse après, on répare, surtout on répare, c'est pas la peine toujours de s'excuser, on répare en tout cas. Mais le lien est important.
On rétablit le lien.
C'est ça
qu'il faut comprendre. Ouais,
c'est ça. En fait, voilà. Edouard Tronick, qui est vraiment un féru de la parentalité positive, il dit ce qui est optimum, c'est d'être 30% du temps en bonne relation et 70% du temps, on est en déconnexion. Donc, on est à côté de la plaque, on crie, on fait ceci, on fait cela, on fait des trucs qui sont pas appropriés. C'est OK, 70%, ça nous laisse une grande marge quand même en tant que parents. Donc, on arrête de se culpabiliser, mais juste, on regarde et on se dit, bah, tiens, là, peut-être j'ai manqué à mon enfant. En fait, ce qui va faire le trauma, c'est soit un grand traumatisme, donc une pandémie, c'est un traumatisme, la pauvreté, c'est du traumatisme, une guerre, donc ça, c'est ces événements macro. Mais aussi, bien sûr, la violence d'un parent, les fessées, la violence physique, etc. Et il y a aussi les répétitions de petits traumatismes, c'est-à-dire les petites choses minuscules, ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc, crier une fois sur un enfant...
Qu'on a tendance à minimiser...
Oui, c'est ça, même une gifle sur un enfant,
c'est
pas
grave. C'est une petite blague, c'était pour rigoler...
Ah oui, ces petites blagues, ces petits trucs... Non, voilà. Donc, quand c'est sans arrêt, qu'on nous appelle petit con, petit ceci, voilà, petit... Ça fait mal et ça finit par saper.
Mon petit gros, ma petite grosse.
Oh là là. Tout ça, ça fait mal. Et ça détruit à l'intérieur énormément. Les parents ne mesurent pas toujours à quel point ça fait mal à l'intérieur. Mais nous, en tant que parents, nous avons besoin de réaliser que c'est ce qui nous est arrivé quand on était petit et qu'on nous a, comme ça, ben, finalement, nous sommes marqués par ces traumatismes. C'est pour ça que à Marseille, j'ai entrepris avec des amis une grande action qui s'appelle Marseille, ville non violente. Il y a Montpellier qui va suivre aussi, Montpellier Stop Trauma. Nous rentrons dans ce mouvement mondial des villes informées sur le trauma. Parce que c'est vraiment, je crois, aujourd'hui, l'angle sous lequel on a besoin d'aller, c'est réaliser à quel point nous sommes tous traumatisés et qu'on a besoin de dire stop. On arrête de se traumatiser les uns les autres. On commence par arrêter de traumatiser les enfants. On commence par leur fournir ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire de la connexion, de la relation. Chaque fois que nous refusons de la connexion à un enfant, nous lui faisons mal. Et à force de faire mal à un enfant, eh bien, il peut développer un traumatisme. Pas, évidemment, une fois, c'est pas grave, mais en
c'est
répétant.
C'est la répétition qui fait le trauma. Ceux qui tirent à bout des rouges sur la parentalité positive disent que, eh bien, nous nagerions dans une pleine crise de l'autorité. Il n'y aurait plus de cadre, plus de limites, plus de respect de l'adulte. Alors vous expliquez que finalement cette complainte du manque d'autorité, déjà c'est pas nouveau, dans les années 80 on en était déjà là, mais bien avant aussi. Ben,
ouais. Oui c'est ça, dans les années 80 je le sais puisque j'ai écrit un livre sur le sentiment de culpabilité.
Là je parle de 1980.
Mais en fait oui, depuis Pompéi, depuis toujours en fait, il y a cette plainte et les sociologues l'ont étudié, c'est vraiment le c'était mieux avant et la perte de l'autorité est assez systématique. C'est quelque chose qui revient comme ça régulièrement et qui va être augmenté assez systématiquement chaque fois qu'il y a de l'insécurité. En fait, et le monde d'aujourd'hui, il est très insécure. La baisse des revenus, la guerre, la pandémie, il y a toutes sortes de choses qui font que le monde est beaucoup moins fiable qu'avant. Et cette insécurité fait qu'on perd un peu nos repères. Et du coup, quand on perd nos repères, comme on les a pas construits à l'intérieur de nous encore, parce qu'on n'a pas reçu une éducation positive, eh bien du coup, on va se dire « il me faut quelqu'un qui me sauve » et hop, on va aller chercher quelqu'un d'autoritaire.
Oui, mais donc, ça trouve écho quand même. Ça,
et oui, justement, ouais. Parce que notre société est fragile en ce moment. Et donc la réponse pour sécuriser, pour donner de la sécurité, ça n'est évidemment pas l'autoritarisme, mais c'est une saine autorité. Et une saine autorité, elle est celle qui prend soin des besoins.
Qu'appelez-vous l'autorité juste ?
Tout à fait. Une autorité juste qu'on a envie de respecter. Parce que ce regard que posent les autoritaristes sur les enfants, ils croient que les enfants vont toujours tout faire pour désobéir, pour faire autre chose et compagnie. Mais en réalité, c'est pas vrai. Un enfant qui a confiance dans son parent, il va spontanément faire toutes sortes de choses. Et dès que son parent lui demande un truc, il va le faire. Parce qu'il ne voit pas de raison de s'opposer. Il sait que le parent le demande parce que c'est juste et non pas parce que le parent a décidé que, etc. Il sait que son parent est toujours de son côté. Si mon enfant sait que je suis de son côté, alors il a confiance en moi.
Oui. Et il est en sécurité.
Il coopère, en fait.
Sur la question des limites, les enfants ont besoin qu'on pose des limites ?
C'est juste le mot poser qui me gêne. Les enfants ont besoin de limites, les parents ont besoin de limites. Et donc, oui, il y a des limites. Il y a des limites au temps d'écran, il y a des limites pour toutes sortes de choses, le nombre de bonbons et compagnie. On va forcément limiter l'accès à un certain nombre de choses pour la santé de l'enfant. Mais c'est surtout le mot « poser » qui me gêne, d'abord parce que c'est pas français, et d'autre part parce que c'est « bang, je pose ». Et poser, c'est une dynamique autoritaire qui n'a pas de sens pour l'enfant. L'enfant, il a besoin de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il a besoin de savoir jusqu'où il peut aller. Il a besoin de comprendre les règles de la société.
Donc vous préférez le mot règle au mot limite.
Ah oui, surtout que les enfants, ils adorent les règles, donc c'est beaucoup plus facile d'être parent.
Ils aiment bien les règles du jeu.
Oui, et ben c'est ça. C'est le jeu social, le jeu humain. C'est comment est-ce qu'on joue ? Tout enfant, il a qu'une envie, c'est de découvrir. Mais comment on joue dans cette société ? Comment on joue le jeu social dans cette société ? Et il a envie d'être conforme. Il ne cherche pas à être forcément non conforme.
Donc, c'est des règles. Donc, voilà, comme des règles du jeu.
comme des règles du jeu qu'il et faut, du coup alors, qui ouais. sont appropriées. Et c'est pas les mêmes règles chez mamie que chez le père. Et c'est pas les mêmes règles chez un parent que chez l'autre parent, parce que il y a aussi toutes sortes de parents. Et c'est ok de pas avoir les mêmes règles. Voilà, c'est juste que c'est les règles, c'est un fonctionnement. Et c'est vraiment passer de il faut à voici comment tu vas faire. Et quand on dit il faut à un humain, qu'il soit enfant ou adulte, il se rebelle. Tandis que quand on lui dit voici comment tu peux faire, hein, il s'intéresse. Voilà.
Pourquoi discipliner les enfants ne produit pas des enfants disciplinés ?
Parce que quand on discipline les enfants, on est dans cette démarche, on est opposé à l'enfant en fait. On est face à lui et on est dans une lutte de pouvoir. Et dans une lutte de pouvoir, ben, on gagne un certain temps, et puis au bout d'un moment, on ne gagne pas. Et surtout, l'enfant apprend à obéir aux parents plutôt qu'à obéir à la règle. Et c'est pour ça que du coup, un vrai enfant discipliné, c'est un enfant qui est dans l'autodiscipline, c'est-à-dire qui va respecter les règles pour elle-même. Tandis que l'enfant qu'on discipline, il va juste, même pas respecter, il va faire ce qu'on lui dit tant que le chef est là.
On en revient, voilà. Voilà.
On en revient
quand le chat est là.
Voilà.
Parmi les clichés qui circulent sur la parentalité positive, il y a cette idée que les parents doivent toujours se justifier et sont toujours en train d'argumenter.
Alors, ça, c'est.
Avec les enfants pour expliquer pourquoi, blablabla.
C'est ça. C'est très drôle parce qu'en fait, c'est quelque chose que les gens ont compris aussi de Françoise Dolto. Et ce n'est pas ce que disait Françoise Dolto. Françoise Dolto, elle disait que oui, c'est important de parler aux enfants, mais de leur parler et de leur expliquer pourquoi leur papa est décédé, comment il est décédé, comment ils sont nés eux-mêmes. Voilà. Expliquer, c'est expliquer les grandes choses de la vie. Mais pas expliquer pourquoi le yaourt ou pourquoi ceci, cela, quoi. En fait, et dans la parentalité positive, il y a même une des techniques qui est un seul mot. On dit un seul mot, par exemple, pour éteindre la lumière, au lieu de dire « s'il te plaît, éteins la lumière, je vais t'expliquer pourquoi il faut éteindre la lumière », on va juste dire « lumière ». Et ça marche nettement mieux. Donc ça, c'est un procès d'intention à la parentalité positive. En aucun cas, la parentalité positive ne consiste à parler énormément avec l'enfant, à négocier sans arrêt, etc. C'est pas du tout ça.
On va terminer sur la question de la frustration. Comment est-ce qu'on peut enseigner la frustration à un enfant ?
Ah, j'aime cette question, Philippe, parce que c'est comment enseigner la frustration ? Eh bien, déjà, on va lui fournir ce dont il a besoin pour tolérer la frustration. Et la première chose qui a été montrée sur ce dont on a besoin, c'est la sécurité. Donc, déjà, je suis un parent qui fournit de la sécurité et je ne romps pas la relation à la moindre chose. Ça, c'est la base. Ensuite, je vais doter mon enfant de capacités. Donc déjà, c'est petit à petit des frustrations, il y en a tout le temps. Il y a la tour de cube qui tombe, bah, c'est super frustrant, je voulais que... Et donc on va accompagner, on va accueillir l'émotion de l'enfant plutôt que de faire semblant ou de le punir ou je sais pas quoi. Bref, on va juste accompagner ce qu'il vit à ce moment-là. Et puis, si on veut que ça aille un petit peu plus vite, on va lui enseigner des techniques. Donc, par exemple, dans cette fabuleuse expérience du chamallow de Walter Michel, Walter Michel a des enfants de moins de 3 ans qui, normalement, ne sont pas capables de résister à la tentation de manger un bonbon. Il leur dit « Regarde, imagine que ce bonbon, c'est une boule de coton. » Et du coup, ben, des enfants de moins de 3 ans sont capables d'attendre 18 minutes. C'est spectaculaire.
Mais l'idée, c'était pas de dire au départ « Si tu attends 3 minutes, tu auras un deuxième ?»
Si, c'est ça. C'était si ça, tu attends, ouais, tu auras un deuxième. Ouais. Et donc, les enfants, a priori, ils voulaient tous un deuxième bonbon. Ouais. Mais avant l'âge de 3 ans, et c'est impossible de résister. C'est pas possible. C'est tout ça. Il n'y a pas encore les capacités dans le cerveau qui permettent d'inhiber. Après 3 ans, il y a toutes sortes d'enfants. Et c'est là qu'on a pu mesurer que ceux qui résistent le mieux à la tentation, donc ceux qui tolèrent la frustration, vont avoir les destins de vie les plus favorables. Donc, on s'est dit, oui, c'est absolument nécessaire la frustration. Mais il ne s'agit pas d'infliger des frustrations bêtement à un enfant pour le plaisir de lui soi-disant apprendre la frustration. Comment enseigner la frustration? Il faut lire tout le livre de Walter Michel sur le test du chamallow, parce que du coup, c'est absolument passionnant. Et on voit l'importance de la sécurité affective et l'importance des stratégies pour pouvoir réussir à tolérer la frustration.
On enverra le livre aux Instagrammeuses autoritaires qui laissent leurs enfants manger des Esquimaux autant qu'ils veulent dans le réfrigérateur. Spéciale dédicace. Merci Isabelle Filloza d'avoir été avec nous. Vous publiez Éduquer, tout ce qu'il faut savoir. Votre éditeur, c'est Robert Laffont. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Philippe.
Et
merci.
Très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.